Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai voulu évoquer pour vous la grande peste noire qui s'abattit sur l'Orient et l'Europe dans la seconde moitié du XIVe siècle. Comment faire face à cette tragédie ? Un fléau qui, dans l'esprit des hommes du temps, ne pouvait être qu'un châtiment de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode, en deux parties. Dans le ciel, des paysans affirment avoir vu une comète entourée de flammes noires. Certains champs, paraît-il, sont couverts d'insectes et de serpents morts. En cet automne 1347, la France s'apprête à vivre une fois de plus une saison anormalement froide et humide. Depuis 1310, le climat semble déréglé. Les récoltes sont de plus en plus mauvaises. La famine fait des ravages, particulièrement dans le nord du pays. Les épidémies de typhus, de typhoïde et de choléra se succèdent impitoyablement sans qu'on puisse donner un nom à ces maladies. On se contente alors de parler d'incommodité ardente.
Le deuil était partout. Et dans les croyances naïves de ces temps de simplicité mystique, chacun disait que le ciel s'était ligué avec la terre contre la race humaine.
Le contexte politique à cette époque n'est pas plus brillant. La guerre contre l'Angleterre apporte régulièrement son lot de défaites. En 1346, la mer du Nord s'est teintée du sang de milliers de soldats massacrés par les armées d'Édouard III. Fin août, la chevalerie française a été réduite à néant par l'artillerie anglaise. La bataille de Crécy va rester, hélas, dans les annales de l'histoire comme l'une des victoires les plus glorieuses de l'Angleterre et l'une des pires humiliations qu'ait connue la France. Alors que chaque jour qui vient apporte malgré tout son lot d'espérance, une nouvelle calamité venue d'Orient s'apprête à fondre sur le pays. En septembre 1347, en effet, le petit comptoir génois de Caffa, au bord de la mer Noire, a été le théâtre d'une scène lourde de conséquences. La horde d'or mongole, rompant le traité commercial qui la liait à l'Italie, fait le siège de la ville. Mais le rapport de force pourtant favorable aux Mongols va brutalement s'inverser. Un mal mystérieux décime les rangs de la horde. Ils ne sont bientôt plus qu'une poignée, et ils se résignent à lever le siège. Ivres de rage et de dépit, ils vont jeter les cadavres des leurs par-dessus les remparts de la cité. Sinistre cadeau d'adieu. Les Génois peuvent à présent quitter le comptoir. Ils embarquent dans leur galère, destination l'Italie. Mais le mal qui a frappé leurs ennemis ne tarde pas à surgir parmi eux. Ils font escale à Constantinople, puis à Alexandrie. Depuis le port, des pêcheurs aperçoivent des galères qui semblent errer sur les flots. On envoie des embarcations à leur rencontre. Le spectacle découvert est terrifiant. Les ponts sont jonchés de cadavres. La flotte génoise, ou ce qu'il en reste, va longer l'Italie, remonter jusqu'à la côte française. Tout le monde ignore complètement les ravages déjà opérés par la maladie dans le reste du monde. On ignore qu'en Chine, 30 millions de personnes ont perdu la vie, le quart de la population. À Bagdad, Alep, 500 personnes meurent chaque jour. À Damas, Naplouse, Jérusalem, on ne peut plus enterrer les morts. Les cadavres sont précipités dans les fleuves ou les ravins. À Gaza, 22 000 personnes sont mortes en un mois. Les contrées de Mésopotamie offrent le spectacle de champs jonchés de cadavres sur des kilomètres. En Égypte, le mal se propage à la vitesse de l'éclair. Et il s'ajoute une tempête de sable telle qu'on n'en avait pas eu de mémoire d'homme et qui va doubler le nombre de victimes. La Grèce va connaître une semblable conjonction de calamités. Alors qu'une chaleur étouffante s'abat sur Athènes, le mal qui frappe les habitants s'accompagne d'une invasion de sauterelles et de chenilles qui vont détruire toutes les récoltes en 3 jours. La population frappée de panique massacre tous ses esclaves, redoutant une mutinerie. Et comme si la coupe n'était pas déjà pleine, un tremblement de terre va secouer les fonds marins de la mer Égée, déclenchant un raz-de-marée sur les côtes. Les navires des marchands qui avaient quitté Thessalonique pour Tripoli sont engloutis. Le vent souffle avec fureur, apportant une pestilence qui, dit-on, fait mourir instantanément tous ceux qui la respirent. Les Génois, encore vivants, accostent en Sicile, où ils sèment la mort une fois de plus. Messine et Syracuse sont réduites au tiers de leurs habitants, tandis que la ville de Trapani est tout bonnement rayée de la carte.
La peste qui frappe le monde est déjà désignée par de lugubres synonymes. On l'appelle Mortalega Grande, Pestis Atrocissima, Peste Épouvantable, Anguinalgia, Mort Dense, Mort Noire, ou plus simplement, la mort.
Dans le ciel, on observe, ou on croit plutôt avoir observé, d'étranges phénomènes. La comète entourée de flammes noires aperçue par les paysans est attestée par un historien de Florence, Villani. Selon lui, elle est apparue dans la constellation du Taureau sous l'influence funeste de Saturne. Il attribue sa sinistre couleur à la présence d'anthracite dans les contrées où elle a été formée. D'ailleurs, cette caractéristique ne se retrouve-t-elle pas sur la peau des malades, sous forme de taches grisâtres, et sur la langue de certains, devenue charbonneuse en quelques heures? Oui, à coup sûr, Saturne y est pour quelque chose. Les Génois, interrogés par les astrologues, prétendent, eux, avoir vu des flammes jaillir de terre, dévorant hommes et bêtes. Ils affirment avoir observé une pluie de vers noirs, pourvue de 8 pattes et d'une queue. Frappés d'effroi, les hérétiques se seraient convertis à la foi chrétienne, une pluie de sang aurait englouti la Mecque et les femmes prises de folie se seraient entre-dévorées, tandis comme Zébeth, affirme un médecin allemand, ont été transformées en statues. En novembre 1347, la flotte génoise accoste à Marseille. La population de la ville ne sait rien de la tragédie qui se joue alors dans le reste du monde. On accueille les marins sans méfiance aucune. Ils ont perdu des hommes d'équipage, mais tout cela fait partie de ces malheurs propres à ces temps anciens, où la mort et la maladie sont des compagnes funestes de chaque jour. Pourtant, parmi eux, certains sont déjà porteurs du mal qui décime l'Orient, et ils sont terriblement contagieux. Quand les Génois repartent, c'est la foudre qui s'abat sur Marseille. En moins de 2 semaines, des rues vont se vider de leurs habitants. Dans l'une d'entre elles, il n'y a plus âme qui vive, au point qu'elle sera débaptisée rue Rifle-Rafle. Les médecins dépêchés auprès des malades n'arrivent souvent que pour constater le décès. Ils ont observé avec effroi les symptômes de cette maladie. Taches grisâtres sur tout le corps, fièvres hémorragiques, et pour certains d'entre eux, des abcès noirs à l'aine ou à l'aisselle, des bubons, ce qui vaudra à cette peste le nom de peste noire ou de peste bubonique. Mais s'ils sont capables d'identifier la peste, celle-ci semble être d'un genre nouveau. Elle se propage très vite, parcourant près de 20 lieues par jour, soit 80 de nos kilomètres. Lorsque la peste arrive à Avignon, où est installée la papauté, Marseille est déjà réduite au tiers de sa population. Le pape Clément VI a été averti de l'arrivée du fléau. Il sait les dispositions prises par le seigneur de Milan. Ce dernier a donné l'ordre de quitter sans délai les villes et les villages, se réfugier dans les forêts. Seuls les prêtres valides sont sommés de visiter les malades et les mourants et de leur donner l'absolution sous peine de feu. Le roi de France, Philippe VI, consulte tout ce que la France compte de médecins, de théologiens et de mages. Pour beaucoup, il ne fait aucun doute que le mal est un châtiment céleste envoyé par Dieu pour punir les chrétiens de leurs péchés.
Dieu, dont la justice est toujours prête à punir le crime, permit que l'avarice des chrétiens remportât le digne salaire de leur commerce avec les Sarrasins. La peste dont il avait frappé les païens vint de l'Orient pour punir les crimes de l'Occident.
Les astrologues débattent à n'en plus finir sur les causes réelles de la maladie. Ils invoquent une conjonction des planètes Jupiter et Saturne, responsables d'une infection de l'air, quand d'autres incriminent la Terre, dont les secousses récentes ressenties dans le sud de la France ont pu libérer des vapeurs délétères. Discussions à n'en plus finir, aussi impuissantes à arrêter le mal que les médecines d'alors. Et pendant ce temps, la peste continue son œuvre de destruction. Des nouvelles terribles arrivent d'Italie. On dit que Florence et Venise ont perdu tous leurs habitants. Les morts se comptent en centaines de milliers. En remontant vers le nord de la France, la peste a dévasté Lyon et Saint-Étienne. Dans cette dernière ville, on a compté 63 000 morts en un mois. Au début de l'épidémie, on essayait de les enterrer selon le rite habituel. Mise en bière, procession, messe, mise au tombeau. Au mois de janvier 1348, c'est devenu tout bonnement impossible. Les prêtres dépêchés au chevet des mourants ont été emportés par la maladie. Les moines appelés à l'aide ont subi le même sort. Dans le sud de la France, les monastères ont été vidés de leurs religieux. Les ordres mendiants, dont les frères s'étaient par vocation dédiés au secours des malades, sont réduits au dixième. Le pape Clément VI est accompagné d'un médecin remarquable, Guy de Chauliac. Loin des querelles d'astrologues, ils vont d'un commun accord prendre une série de décisions d'un pragmatisme étonnant, ce Moyen-Âge pétri de toutes sortes de superstitions. Face au nombre de morts qui ne cessent de croître, le Saint-Père achète un grand champ à côté d'Avignon. Il appelle tous les clercs de bonne volonté à se porter auprès des mourants pour leur donner l'absolution. Dans le cas où les clercs viendraient à manquer, il donne l'autorisation à tout chrétien, homme ou femme, de confesser et d'absoudre. Il bénit également le Rhône avant d'y faire jeter tous les cadavres. Mais ça ne s'arrête pas là. Fait nouveau et incroyable pour l'époque, il va autoriser les premières autopsies. Il faut comprendre cette maladie, analyser ses symptômes. Guy de Chauliac va de son côté inventer une disposition prophylactique jamais vue auparavant. Le confinement. Il ordonne au pape de rester cloîtré le temps que l'épidémie cesse. Son entourage est scandalisé. Comment peut-il croire que la maladie puisse se transmettre d'homme à homme quand tous les savants affirment qu'elle est le simple fait de la pestilence de l'air? Mais Chauliac convainc le pape, qui décrète
« Il faut avoir le plus grand soin d'éloigner les hommes sains de ceux dont la maladie répand une mauvaise odeur, car ces maladies sont contagieuses. L'air respiré par les malades ressort de leur bouche corrompue et empoisonnée et infecte les assistants. »
Hélas, ces décisions salutaires arrivent trop tard. La mort est partout. À l'horreur succède la folie. Un vent de panique souffle sur l'Europe. Les injonctions du pape restent lettres mortes. Rapidement, il ne reste plus de héros pour communiquer les bulles du souverain pontife. Dans la région d'Avignon, des clercs le voient passer à cheval au grand galop pour se porter auprès de ses clercs et les soutenir par sa présence aux grandes dames de Guy de Chauliac. Guy de Chauliac, qui, nous l'avons vu, lui a enjoint de rester claquemuré dans l'enceinte du palais. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire consacré à la peste noire.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Le texte est de Jean-Louis Bachelet. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Bibliographie. Autour de la peste noire, famines et épidémies dans l'histoire du XIVe siècle. Par Elisabeth Carpentien, dans les annales Économie, Société, Civilisation, 1962. Documents inédits sur la grande peste de 1347, par Joseph Michon, aux éditions Bayer et Fils, 1860. Histoire de la peste noire par le docteur Philippe, direction de la publicité médicale, Paris, 1853. La peste noire dans l'Occident chrétien et musulman, 1346-1347, 1352-1353, par Stéphane Barry et Norbert Gald, Ausonius Éditions, 2007.